Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jour 18, lundi 10 janvier 2022. Un coup de théâtre inattendu vient d'avancer mon heure de gloire. Le docteur Firsen, l'hypnothérapeute qui s'occupe d'Éléonore Couret, vient de la faire accoucher d'une vérité insoupçonnable. Une vérité si atroce qu'elle l'avait enfouie dans les bas-fonds de son âme. Madame Couret était présente lorsque sa fille Céleste a été enlevée aux Swann par Enzo Sorrenti. Elle dormait dans sa chambre lorsqu'un bruit l'a réveillée. Elle est sortie dans le couloir voir ce qui se passait, mais elle a été victime d'une de ses pertes de connaissance. Le sort de l'Italien est désormais scellé. Un mandat d'arrêt européen vient d'être émis et une mise en détention provisoire réclamée. Au tour du procureur et de ses grands manitous de faire leur boulot à présent. Affaire à suivre pour eux, affaire classée pour nous. On fête la fin de l'enquête au commissariat. Puis je rentre chez moi pour tenter d'oublier la folie des hommes. Des jours et des jours à mâcher du malheur, ça finit par vous atteindre. Mais bon, il paraît que plus les hivers sont rudes, plus les printemps sont gais. Alors je tiens bon en attendant les jours meilleurs. Je suis sur le parking du commissariat, prêt à monter dans ma voiture, quand j'entends Anna prononcer mon prénom.
Olaf.
Je crois que c'est la première fois, en 3 ans de relations professionnelles. Anna s'approche de moi et, sans rien dire, elle m'embrasse.
Je suis assise dans un bistrot vide. Je fais le point seule avec mon verre de pinot noir. À la fois soulagée que l'enquête soit terminée et en même temps complètement déboussolée. On est censé faire quoi maintenant? Oublier pour vivre? Se rappeler pour mourir? Nous quittons le Danemark dans 2 heures, définitivement. Nous allons rentrer à Paris et ouvrir un nouveau chapitre. Un chapitre triste à mourir.
Jour 30. Samedi 22 janvier 2022. Inspecteur Nielsen. Vous et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Mais je sais que c'est vous qui pilotiez l'enquête du meurtre de Céleste Couret depuis le Danemark. Mon procès approche et je risque la perpétuité pour un meurtre que je n'ai pas commis. Je ne cesse de répéter la vérité depuis le début. Vous avez cherché, inspecteur, mais vous n'avez pas trouvé. Je me demande simplement si vous le savez. Si une petite voix ne vous visite pas la nuit pour vous demander, êtes-vous bien sûr d'avoir été au bout de chacune de vos pistes? N'avez-vous pas laissé filer une information cruciale? Êtes-vous certain, absolument certain, que vous pouvez faire confiance au récit d'Éléonore Couret? Car elle vous a menti. Elle n'a pas pu me voir enlever sa fille, je n'ai jamais croisé Céleste de son vivant. Ma seule rencontre avec elle s'est faite dans ce maudit sous-sol, et elle était déjà morte. Je ne sais pas si l'inconscient de cette mère est pleuré à fabriquer un tel souvenir pour obtenir un peu de répit, ou si elle ment consciemment pour protéger quelqu'un, mais je vous en conjure. Rouvrez l'enquête. Enzo Sorrenti.
Céleste. Mon adorable Céleste. Je sais que tu ne liras jamais ces mots, mais j'ai besoin de te les écrire. J'espère qu'où que tu sois, tu pourras les entendre. Je suis désolée de ne pas avoir vu, de ne pas avoir pu te protéger. Je repense sans arrêt à ce 24 décembre, à ce que tu as dû vivre, à ce que tu as dû penser quand ce sont les mains de Juliette qui ont serré cette corde autour de ton cou. Juliette, et pas Enzo Sorrenti. Je l'ai compris lorsqu'elle a pris ma main dans la sienne au restaurant. Elle voulait m'apporter du soutien, mais tout ce qu'elle a fait, c'est me crever le cœur. J'ai vu, à son poignet, ton bracelet, celui que tu portais le soir de Noël, le soir de ta mort. En choisissant les vêtements que tu allais porter pour ta mise en bière, je m'étais demandé où était passé ce bracelet. Et puis, ce soir-là, j'ai enfin compris. Je ne me résous toujours pas à demander pourquoi. Pourquoi Juliette a-t-elle fait ça ? J'ai lu que pour étrangler quelqu'un, il faut exercer la pression pendant environ 5 minutes. Juliette a serré cette maudite corde autour de ton cou pendant 5 minutes. Je suis pas prête à entendre ces réponses. Elles ne changeront rien. Il faut simplement accepter. Accepter que ce ne soit pas un monstre qui t'ait tué, mais ta sœur. Accepter que j'ai envoyé un innocent en prison pour la protéger. Accepter. Et essayer de continuer. Il n'y a pas une minute où je ne pense pas à toi, ma petite fille. Je t'aime. Maman.
Maman. Je suis censée aller en cours, mais j'y arrive pas. Je sais pas comment faire semblant, toute la journée au milieu de ma classe. Je sais que t'as tout compris le soir où nous avons dîné au restaurant. Alors voilà. Les réponses aux questions que tu te poses en silence. Avant les vacances de Noël, ça faisait plusieurs mois que ça n'allait pas. Je me sentais déprimée, moche, incomprise. Je me suis procuré un antidépresseur en secret, pour aller mieux. Mais les choses n'ont fait qu'empirer. J'ai commencé à développer des pensées noires pour Céleste, la petite cadette que tout le monde aimait tant. Tout l'inverse de moi. Je la supportais plus, c'était plus fort que moi. J'ai même espéré qu'elle ait un accident de moto. Un jour où je l'ai vu monter derrière un de ses amis. Le soir de Noël, j'étais dans mon lit au Swan. J'essayais de dormir, mais j'entendais Céleste de l'autre côté du mur. Elle parlait avec son petit copain au téléphone. Elle disait qu'elle jouait la comédie pour le moment, mais qu'elle balancerait tout à la rentrée pour l'aventure de papa. Et puis elle a parlé de moi. Dit que j'étais partie me coucher tôt, comme d'hab. Qu'elle savait pas ce qui clochait avec moi, mais qu'elle espérait ne pas être aussi déprimante à mon âge. J'ai mis l'oreiller sur ma tête pour ne plus l'entendre, mais c'était trop tard. Tout ce que je retenais depuis des mois ne demandait qu'à sortir. Et j'ai vu ma corde à sauter dépasser de mon sac. J'ai toqué à sa chambre et lui ai dit que j'avais quelque chose à lui montrer au sous-sol. Elle s'est rhabillée et m'a suivie. Je lui ai déballé tout ce que j'avais sur le cœur. Elle m'a regardée avec mépris. M'a demandé si ma crise d'hystérie était terminée. Elle a dit que cette famille, ça devenait vraiment n'importe quoi, qu'il fallait faire quelque chose. Te dire pour la tromperie de papa et me faire interner. Alors j'ai craqué. Je suis désolée, maman. Je voulais pas. J'étais plus moi-même, il faut que tu me crois. Après, je suis restée dans ce sous-sol affreux un moment, je sais pas combien de temps. J'arrivais pas à la laisser. Je lui ai pris le bracelet que tu lui avais offert à Noël sans trop réfléchir, comme pour la garder auprès de moi. Je suis remontée dans ma chambre en faisant attention de ne croiser personne. Et puis j'ai essayé de m'endormir. Mais je me suis souvenu que j'avais laissé la corde en bas. Je l'ai récupérée et le lendemain, je l'ai jetée dans une poubelle dans la rue. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu mourir. Parce que je sais pas comment vivre avec cette culpabilité. Mais je vais essayer. Pour toi. Pour papa. Pardonne-moi, maman, je t'en supplie.
En rentrant du travail, deux lettres m'attendent sur la table de la cuisine. J'ouvre la première. C'est la psychologue que voit Juliette depuis sa tentative de suicide. Elle m'indique que durant leur séance de thérapie, elle a découvert que ma fille s'était procuré un antidépresseur l'été dernier. Elle me somme de lui faire cesser la prise du médicament immédiatement. Il peut être extrêmement dangereux. Provoquer des angoisses, des accès d'agressivité, des états de démence ou de schizophrénie. Je repose la lettre en état de choc. J'ouvre la deuxième. Je reconnais l'écriture de Juliette. J'ai désormais toute la vérité entre les mains. Elle me glace, me choque, me tue. Mais j'ai pas le choix. Je vais devoir faire avec. Je me ressaisis et me mets au fourneau. J'ai appris à faire semblant. Ce soir, Juliette et moi, nous mangerons des lasagnes devant un bon film. Et nous ne discuterons pas. Nous ne discuterons plus jamais de tout ça. C'est fini maintenant. Avant d'aller me coucher, je vois que j'ai plusieurs appels en absence. Elliot m'a appelé deux fois avant de m'envoyer un texto. Il veut savoir comment on s'organise ce week-end par rapport à Juliette. Je lui répondrai demain. Je m'apprête à éteindre mon portable lorsque je vois un autre nom s'afficher sur l'écran. Nielsen. Mon cœur s'emballe. Pourquoi m'appelle-t-il? Je suis incapable de décrocher. Juliette me regarde, déconcertée.
Ça va? Pourquoi tu réponds pas?
Je lui montre le portable et son visage se décompose. Nous échangeons un regard complice, terrorisé. Il sait, forcément. Je parviens à rassembler mes forces pour lui répondre et j'entends à l'autre bout du fil les quelques mots qui porteront à mon histoire le coup de sifflet final. Celui dont les perdants ne se relèvent jamais.
Éléonore, il faut que je vous parle.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.